Vous écoutez Alger-Chaîne 3, le journal.
Et au sommaire de l'édition de 23h, la régularisation des jeunes Algériens vivant à l'étranger en situation précaire et irrégulière, décision d'importance prise par le président de la République hier en Conseil des ministres et sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Étendre également la surface agricole cultivée à 3 millions d'hectares, nécessité de réviser la loi d'orientation agricole, trouver des solutions appropriées et urgentes pour la filière viande, autre cas fixé par le président de la République. Les lauréats de la 6e édition du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh, primé ce lundi à Bni Abbas lors d'une cérémonie organisée coïncidant avec les festivités nationales et officielles célébrant le nouvel an amazigh Yennayer de 1976. Ce classement du New York Times qui a fait d'Oran la 7e meilleure destination touristique mondiale pour 2026, Al Bahia qui dispose de plusieurs atouts que nous détaillera notre correspondant. Plus de 2500 bâtiments ont été détruits par l'armée sioniste dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. Les enfants de Gaza qui continue à mourir de malnutrition. Et puis le Maroc, plaque tournante de trafic de drogue dans le monde, le phénomène menace la communauté internationale. Un nouveau rapport accable le Marzen, document publié à Madrid par le site N'oubliez pas le Sahara occidental. Et puis sport football, l'USMA d'Alger, tenant du titre, premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football, les Rouges et Noirs se sont imposés au bout des prolongations devant l'USM Al-Harrach sur le score de 3-2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité, toujours marquée par les décisions annoncées hier en Conseil des ministres, a commencé par cette décision d'importance prise par le président de la République, la régularisation des jeunes Algériens vivant à l'étranger en situation précaire et irrégulière. Ils peuvent rentrer au pays à condition de ne pas être impliqués dans des crimes de sang, trafic d'armes et de drogue. Décision unanimement saluée, décision qualifiée de judicieuse et sage, qui reflète l'attachement de l'État à veiller et à protéger ses enfants, Sofia Boukacha.
L'appel du président de la République, un message politique fort où se croisent responsabilité et réconciliation nationale, souligne Badis Renissa, expert en relations internationales.
C'est un message du président qui est ni anodin, ni conjoncturel, je dirais. Il s'inscrit dans une véritable séquence politique, d'ailleurs, qui est à la croisée de la souveraineté, de la responsabilité nationale et même de la réconciliation civique. Le signal est politique et il est clair, l'État algérien distingue entre la jeunesse, parfois fragilisée, trompée, et ceux qui instrumentalisent cette jeunesse à des fins souvent de déstabilisation. Le président ne parle pas de sanctions collectives, mais bel et bien de lucidité politique et surtout de main tendue. En appelant ces jeunes à régulariser leur situation, le chef de l'État réaffirme, de mon point de vue, une constante de sa gouvernance, à savoir l'Algérie ne renonce jamais à ses enfants.
Ce message met en avant la responsabilité, l'inclusion et la fermeté, tout en traçant une ligne rouge contre toute manipulation ou atteinte à la cohésion nationale, selon Bédis Renissa.
Ce message traduit également des valeurs présidentielles fortes. La responsabilité plutôt que la stigmatisation, l'inclusion plutôt que l'exclusion, l'autorité de l'État sans bien évidemment brutalité, la fermeté sans reniement des principes. Mais je dirais que ce discours comporte aussi une ligne rouge parfaitement assumée, qu'aucune instrumentalisation extérieure, aucune manipulation, aucune tentative de porter atteinte à la cohésion nationale ne sera bien évidemment tolérée. Le président nous rappelle une vérité fondamentale. On peut critiquer, débattre, on peut s'exprimer, mais on ne peut pas servir des agendas hostiles contre son propre pays en prétendant, encore une fois, agir au nom de la liberté.
Le Conseil des ministres, en accord avec toutes les institutions de l'État, décide de régulariser la situation de certains jeunes sous condition de non-récidive. La mesure exclut les crimes graves et toute collaboration avec des services étrangers contre l'Algérie.
Et étendre la surface agricole cultivée à 3 millions d'hectares, nécessité de réviser la loi d'orientation agricole, autre cap fixé par le chef de l'État, Chemseddine Bouzida.
Le projet de loi d'orientation agricole vise à structurer, moderniser et renforcer la production nationale. Rabih Ouled Haddar, le président de la chambre agricole de la wilaya de Ghardaya, nous parle du fait que ce projet de loi arrive à point nommé, étant donné les difficultés auxquelles fait face la loi actuelle.
Sachant que l'actuelle loi a marqué beaucoup d'anomalies, surtout dans le développement et l'accompagnement de l'agriculture, la révision de la loi d'orientation agricole est une bonne initiative en réponse aux changements climatiques, aux enjeux géopolitiques, énergétique, l'approvisionnement en produits stratégiques alimentaires.
Rabih Ouled Haddar nous parle aussi des aspects que le projet de loi doit prendre en considération.
Autre point, c'est l'accompagnement d'une mutation socio-professionnelle. L'agriculteur d'aujourd'hui, ce n'est plus l'agriculteur du passé. Il faut augmenter l'attractivité pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes diplômés, les start-up. Modernisation des systèmes de production, veiller sur un bon transfert de technologie et aussi une nouvelle filière, un nouveau pôle agricole comme palliatif de produire surtout en céréales et les oléagineuses et les cultures sucrières.
Ce projet de loi apparaît comme une prise en charge globale du secteur en intégrant plusieurs domaines clés appelés à faire évoluer les pratiques agricoles et à consolider durablement l'agriculture en Algérie.
Et la filière viande rouge qui reste posée lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies. Le chef de l'État avait déjà parlé d'échec, d'où l'instruction de Abdelmajid Tebboune au ministre de l'Agriculture afin de trouver des solutions appropriées et urgentes. Je cite, l'objectif étant de produire plus pour répondre aux besoins du marché national. Comment ? Éléments de réponse avec Mayal 15.
Le président de la République appelle à relancer rapidement la production des viandes rouges et blanches pour couvrir les besoins du marché national. Mustapha Benaoui, expert en agriculture et en ressources en eau, suggère plusieurs pistes, notamment pour les viandes rouges.
Je crois qu'il faut peut-être une réaction à court terme consistant en la mise en place à la disposition des éleveurs ovins et même bovins des aliments nécessaires à cette filière, quitte à faire appel aux importateurs privés pour inonder le marché rapidement. Dans une deuxième étape, je crois qu'il y a matière aussi à engager un programme de régénération des parcours steppiques, siège justement de cette activité, à peu près 30 millions d'hectares pour un cheptel de 15-16 millions de têtes ovines. Aussi, il faut engager un programme peut-être d'amélioration de races pour avoir des races plus performantes. Et je crois que long terme, c'est de faire de sorte à transformer donc les éleveurs en agro-éleveurs.
Pour Elsre Meklich, professeur en agronomie, relancer la production des viandes rouges passe par des actions prioritaires impliquant directement éleveurs et producteurs.
L'alimentation des viandes rouges, c'est surtout le maïs, l'orge, le soja. Et là, on arrive à produire suffisamment. Peut-être pour certains produits, il faut aller vers la libération des produits agricoles. Par exemple, l'orge, sur le marché parallèle, elle coûte beaucoup plus cher que sur le marché l'OIC.
L'enjeu est clair, mobiliser tous les acteurs du secteur pour garantir une production durable et répondre aux besoins alimentaires des Algériens.
23h07 sur les ondes d'Algéchin 3, les lauréats de la 6e édition du prix du président de la République de la littérature et de la langue amazigh ont été primés ce lundi à Bni Abbès lors d'une cérémonie organisée et coïncidant avec les festivités nationales et officielles célébrant le nouvel an amazigh, Yennaïr 1976, de Bni Abbès, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Hanan Saïsi.
Au final, 7 lauréats distingués, un point commun les unit, tous sont âgés de moins de 40 ans, une génération montante qui porte un regard nouveau sur Tamazirt à travers des œuvres à la fois innovantes et ancrées dans l'identité culturelle nationale. Parmi les primés, Lisa Seric, 21 ans, lauréate du premier prix du président de la République dans la catégorie littérature et traduction vers Tamazirt. Par son travail, la jeune auteure contribue à rapprocher les langues et à renforcer la présence de Tamazirt dans le champ littéraire contemporain.
Pour moi, c'est un honneur déjà le fait de participer, le fait d'être là. Ce prix, ça me fait vraiment un encouragement pour avancer, pour créer.
Autre illustration de cette dynamique, Tofir Djeroud, lauréat du premier prix dans la catégorie technologie et numérique. Son œuvre démontre que la langue amazigh peut pleinement investir les nouveaux outils technologiques et s'adapter aux usages numériques actuels. Tofir
avec les applications tamazight.
Grâce aux plateformes numériques et les applications, nous travaillons au développement de la langue tamazight. Ces moyens technologiques nous permettent de faciliter son apprentissage. Mon application permet d'effectuer des recherches dans un dictionnaire comprenant 4 langues, arabe, tamazight, français et anglais.
À travers ce prix, les pouvoirs publics encouragent non seulement la création littéraire et la traduction en tamazight, mais aussi son intégration dans les domaines de l'innovation et du numérique. Une reconnaissance qui confirme que la langue amazigh, portée par sa jeunesse, s'inscrit résolument dans l'avenir.
Et la célébration qui traduit la volonté des pouvoirs publics à consacrer Yennaïr comme un événement fédérateur inscrit dans la profondeur historique et culturelle de la nation algérienne a souligné ce soir le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité, Sileh Hechmi Assad, à l'occasion de la clôture des manifestations de célébration de cet événement national placé, je vous rappelle, sous le patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Yennaïr de 1976, fêté, célébré partout à travers le pays, mais également au sein de notre communauté installée à l'étranger, célébration souvent en famille, autour d'un repas traditionnel. Nous vous le disons en titre, s'il y a bien une ville qui a la côte ces dernières années, c'est bien Oran. Son patrimoine historique, sa vitalité culturelle, son attractivité touristique, la classe à la 7e position des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026. C'est le prestigieux classement annuel du New York Times qui le dit. Hamza Belmadani est notre correspondant permanent à El Bahia.
Dans son article, le célèbre journal américain souligne qu'à mesure que l'Algérie s'impose comme une destination touristique montante, Oran vit une véritable renaissance culturelle, mêlant à un passé riche et stratifié à une énergie nouvelle et audacieuse. Ville portuaire ouverte sur la Méditerranée, balayée par la brise marine, Oran séduit par son ambiance, son histoire et sa créativité. Au-delà de cette reconnaissance pour 2026, Oran dispose de nombreuses potentialités touristiques qui en font une destination attrayante. La ville compte 220 hôtels offrant une diversité d'hébergements pour tous les types de visiteurs et 447 agences de voyage, facilitant l'organisation de séjours et d'excursions. Ces 36 plages baignées par la Méditerranée offrent des espaces de détente et de loisirs variés. Enfin, 10 circuits touristiques permettent de découvrir le riche patrimoine historique, culturel et naturel de la région, faisant d'Oran une ville dynamique et pleine de charme pour les voyageurs. El Bahia avait déjà été élue en 2025 meilleure destination touristique émergente en Afrique grâce à la diversité de son offre touristique. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3.
Et un nouveau rapport qui accable le Maroc, plaque tournante de trafic de drogue dans le monde. Le document publié à Madrid par le site N'oubliez pas le Sahara occidental précise clairement que ce phénomène ne relève plus d'une simple criminalité marginale, mais constitue désormais une composante d'une économie parallèle profondément enracinée qui menace la communauté internationale. L'Estrini.
Le document met en lumière le développement industriel de la production de cannabis au Maroc, favorisé par une tolérance institutionnelle persistante et l'absence de contrôle financier effectif. Le rapport souligne que l'Europe est devenue une destination majeure de ces flux de drogue, accompagnée d'une montée inquiétante de la violence liée aux gangs criminels transnationaux. Une situation qui transforme ce phénomène en un enjeu sécuritaire et judiciaire nécessitant une mobilisation internationale coordonnée. Au-delà des réseaux criminels, le document affirme que les revenus issus du trafic servent à des activités de chantage, de pression politique et au financement de groupes d'influence, faisant de cette économie parallèle un véritable outil stratégique du système du Marzen. Le Maroc y est également décrit comme un centre logistique majeur du trafic international. Ces activités ne relèvent pas d'initiatives isolées, mais d'une coordination méthodique impliquant des complicités au niveau des dispositifs de surveillance. Enfin, le document établit un parallèle entre l'instrumentalisation du trafic de drogue et celle de la migration présentée comme des leviers de pression géopolitique visant à influencer les positions internationales sur la question du Sahara occidental.
Le Maroc est un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste. Plus de 2500 bâtiments ont été détruits par l'armée sioniste dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. C'est ce que rapporte ce lundi le journal américain, le New York Times, cité par l'agence de presse Wafa. Par ailleurs, les enfants palestiniens meurent de froid et de malnutrition. Deux sont décédés aujourd'hui alors que l'entité sioniste interdit toujours l'accès aux ONG humanitaires. Le point depuis Gaza avec le journaliste Wassim Abou.
Le ministère de la Santé a annoncé une hausse du nombre de décès dus au froid, atteignant 21 Palestiniens. Ces décès sont survenus après que ces familles ont perdu leurs moyens de chauffage. Ces conditions avaient pourtant été signalées et dénoncées par les hôpitaux palestiniens, qui décrivent la situation comme tragique et sombre en raison de la guerre, du froid intense et de la propagation des épidémies. Le système de santé continue de faire face à un déficit aigu en raison des restrictions imposées par l'occupation sioniste, notamment l'interdiction d'entrée des médicaments avec le froid glacial. On observe également une propagation des épidémies et des maladies, touchant particulièrement les enfants, les nourrissons et les personnes âgées.
L'actualité, c'est également ces 250 tracteurs qui sont prévus demain matin à Paris à l'approche de la signature de l'accord européen avec le Mercosur sud-américain prévu samedi au Paraguay. Les agriculteurs français en colère, notamment contre ce traité, ont entamé ce lundi une nouvelle semaine de manifestations ciblant les ports et plusieurs autoroutes et en prévoyant une nouvelle manifestation à Paris demain. Les cours du pétrole ont terminé en petite hausse ce lundi, les opérateurs restant attentifs au risque de perturbation de la production sur fond de tension tensions géopolitiques, le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'est échangé à $63.87. Et puis, le président américain, Donald Trump, qui annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%. Nous arrivons à notre page sport avec nous, Islam Tazibt. Bonsoir, Islam.
Bonsoir, Walid.
Du football avec l'USMA d'Alger, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football.
Eh oui, l'USM Alger, tenant du titre, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie au terme d'un match très serré face à l'USM Al Harrach. La rencontre, disputée ce lundi au stade Nelson Mandela de Berari, s'est terminée sur le score de 3-2 après prolongation. On écoute à ce propos Hadj Adlen, le porte-parole de l'USM Alger, c'était juste après la rencontre.
On peut dire que c'était un match de coupe. On s'attendait, on savait qu'il va y avoir le public qui allait pousser Harrach. On s'est préparé pour. Moi, je félicite les joueurs pour les efforts qu'ils ont fournis. On a été à la hauteur pendant les 120 minutes. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs et puis on les a rectifiées. Bravo pour la qualif et puis on va récupérer pour préparer le prochain match.
C'était donc Hadj Adlen. La programmation des huitièmes de finale se poursuit ce mardi 13 janvier avec un autre derby prometteur entre le Mouloudia d'Alger et l'Étoile sportive de Ben Aknoun. Le coup d'envoi est prévu à 19h au stade Ali Ammar de Douira.
Merci à vous, Islam, pour toutes ces précisions. Bien sûr, vous restez avec nous pour la spéciale CAN. Ça sera juste après la page météo de Leïla Djobbour. L'édition de ce soir a été réalisée par Zinkhawa. Merci à vous de nous avoir prêté attention.